I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lévi.
Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
Démystifier le monde de la finance avec Frédéric Cuillon. Puis en plus de ça, faire de l'argent avec nos dettes. Comment demander mieux, hein?
Impossible.
Impossible? Comment ça va?
Ça va bien. Et toi, Nora?
Oui, ça va super bien, Frédéric. Là, on t'a à distance, toi aussi, ce qui est plutôt inhabituel, mais j'ai bien hâte de découvrir comment transformer mes dettes, si j'en ai, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont pas, en opportunités de croissance financière.
Oui, la santé fait que je ne suis pas à Lévis aujourd'hui, mais je suis là. En un seul morceau. Oui,
génial.
Aujourd'hui, c'est un sujet assez intéressant que j'ai creusé dans ma mémoire très ancienne pour aller chercher des pièces de casse-tête là, pour pouvoir monter quelque chose d'intéressant.
OK. Donc, j'ai bien hâte de voir si ta mémoire est bonne.
Est bonne, oui. C'est sûr que quand on parle de s'enrichir avec ses dettes, la première question que moi me vient en tête, c'est toujours est-ce qu'on parle de bonne dette ou de mauvaise dette?
Ouais.
Déjà, beaucoup de gens ne font pas la distinction entre ces deux-là. Et je dirais que beaucoup de gens qui pensent que c'est quasi pas possible d'avoir des bonnes dettes. Les deux sont bonnes, on va en parler là, dans la chronique aujourd'hui.
Ah oui!
Une façon rapide de savoir si une dette, elle est bonne ou pas, c'est de savoir est-ce qu'au bout de la ligne, au bout de la transaction qu'on a terminé de payer l'emprunt, est-ce que ça a laissé plus d'argent dans notre portefeuille ou pas? Si la réponse est oui, c'est une bonne dette. Si la réponse est non, ce n'est pas une bonne dette. Donc, c'est sûr que là, on peut rentrer dans toutes les fameuses dettes à la consommation, des emprunts pour des meubles, des emprunt pour auto et des choses comme ça, qui fait qu'au bout de la ligne, c'est sûr que l'auto, on a besoin pour gagner des sous. Donc, là, il y a comme une compensation.
Es-tu en train de dire qu'une auto, c'est une bonne dette?
Bien, elle est dans une zone grise parce que, puis encore là, zone grise, c'est toujours l'idée de savoir est-ce qu'on la jette selon nos moyens. Est-ce que selon nos moyens, ça serait une voiture de 25 000, puis on décide qu'on mérite une de 40 000? Et le hic est là, entre le besoin et le désir, il faut faire la différence.
Ah, mais c'est sûr qu'on mérite bien des affaires, mais ça peut être irritant après, par exemple.
On mérite, mais il faut gagner. Donc, des statistiques, je t'envoie tout de suite des statistiques à la base. 95%, souvent, je l'ai dit souvent, c'est là, 95% des gens ont des dettes et beaucoup ne le savent pas. J'ai fait un petit sondage, je pense que tu es au courant maintenant, sur mon groupe Facebook, J'améliore mes finances. Il n'y a pas énormément de personnes qui en répondent, mais j'ai quand même été curieux de voir la réponse. Je la donne tout de suite, là, il y a 60% des gens qui ont répondu que oui. Donc, ce serait moins que la moyenne ou la statistique de base que je prône depuis plusieurs années là, que j'ai entendu.
Et là, est-ce qu'on sait si ce sont des mauvaises dettes ou des bonnes dettes?
C'est ça, la question n'était pas hyper précise. La question était simplement, est-ce que vous avez des dettes, oui, non?
Et puis, est-ce que tu as des statistiques par âge, Frédéric, à savoir qui est le plus endetté ou quel sexe est le plus endetté même?
Oui, ben des statistiques sur les âges. Et c'était divisé 1, 2, 3, 4, en 5 groupes. Moins de 35 ans, la moyenne serait, on parle de Statistique Canada en 2019, donc on remonte de 5 ans, c'est pas si loin. 65 500, la moyenne des gens de 35 ans et moins. Donc, c'est souvent pré-étudiant, peut-être une première maison. 35-44, 105 000.
Attends un petit peu, Frédéric, es-tu en train de dire que les gens de moins de 35 ans sont endettés d'environ 65 000 $?
Oui, tout près de 70 000.
Et tabarouette!
Ça part fort un peu. Et oui, mon chien qui veut parler.
Ça commence mal une vie, ça, il me semble.
Excuse-moi, je t'ai pas entendu.
Ça commence mal une vie, il me semble.
Oui, ça part tout de suite un boulet de canon.
Bon, là, on entend un chien. Hein? Vous ne vous rêvez pas, mesdames et messieurs. Donc, OK. Et pour les... après ça, la prochaine tranche était 36 ans.
35 à 44, on parle de 105 000. Donc, c'est un 35 000 de plus. Donc là, on embarque plus, j'imagine, sur l'hypothèque. 45 à 55, c'est la plus haute à 130 000. 130-100, là, pour être précis, là. Là, après, ça commence à baisser. 55 à 64, 80, 600. Et 65 et plus, on parle de 49, 900. Donc, ça fait comme une...
Mais là, ça explique peut-être pourquoi les retraités font des retours sur le marché du travail.
Effectivement. Puis là, là-dedans, là, on n'a pas la COVID. Là, 2019, là, on est juste un petit peu la COVID.
En c'est 2020, ça,
je crois, là. Ça fait quelques années, puis c'est 2019-2020. Donc, on n'a pas l'inflation galopante qui a monté là, énormément il y a quelques mois. Là. Ça augure pas bien. Ça ne dit pas, par exemple, si c'est des bonnes et des mauvaises. Je pense que beaucoup de gens, c'est des mauvaises dettes. Peu de gens vont directement dans les bonnes dettes. Je pose une petite question comme ça. J'avais une autre statistique. C'est 80 des gens. La moyenne des gens ont 7 cartes de crédit. Fait que déjà là, ça dit que les gens jouent beaucoup avec des cartes de crédit. Et cartes de crédit dit aussi que j'ai pas conscience que j'ai peut-être pas l'argent dans mon compte de banque pour payer quand je vais recevoir l'état de compte. Quand on parle de payer toujours avec une carte de débit, bien, à un moment donné, la machine va faire bip bip, il n'y a plus d'argent dans ton compte. La consommation arrête. Mais une carte de crédit, il n'y a pas de bip-bip en disant tu ne seras pas capable de payer, tu vas devoir payer des gros taux d'intérêt aux alentours de 20% sur cet emprunt-là.
Mais encore là, ça doit dépendre de ce qu'on fait avec les cartes de crédit. Par exemple, si on prend la valeur qu'on peut avoir avec nos cartes de crédit, qu'on s'en va investir ça dans l'immobilier, par exemple, peut-être que ça peut être bien d'avoir ce crédit-là à 20 % d'intérêt, même s'il est élevé ou pas.
C'est élevé. Si on va sur une bonne dette, si on s'en sert pour une bonne dette, effectivement, de ce côté-là. Ce que la majorité des gens ne font pas, ils s'en servent pour leur consommation là, de base. Donc, c'est ça. Une petite question que je pose même, que les gens qui sont à l'écoute ou qui écouteront en rediffusion, êtes-vous capable de prendre un papier et un crayon et de calculer les intérêts que vous payez pendant une année. Sur les cartes de crédit, mettons que vous ne payez pas chaque mois le montant complet, combien d'intérêts vous payez sur un prêt étudiant, un prêt automobile, un prêt hypothécaire, prêt meuble, prêt peu importe, de calculer dans une année combien d'intérêts vous pouvez payer. Et l'envers de cette question-là, est-ce que vous aimeriez ça payer moins si vous appreniez là, à pouvoir les payer plus rapidement? Donc, j'envoie la petite question comme ça.
Oui, puis le calcul des intérêts payés, ça peut être peut-être compliqué pour certaines personnes, Frédéric, de calculer ça. J'imagine qu'ils peuvent se référer à leur relevé de leur institution prêteuse
oui.
Plutôt.
Souvent, au mois de décembre, l'indique là, pendant toute l'année combien d'intérêts ont été payés. C'est souvent les prêts étudiants, les prêts auto. Quand il y a un prêt sur une institution financière, souvent le mois de décembre, on envoie un beau petit tableau en disant « Mais voici, au début, c'est vous deviez tant. À la fin, vous devez maintenant tant. Voici, vous avez payé tant de capital, tant d'intérêts. »
Peut-être pas attendre à la fin de l'année pour savoir combien vous avez payé parce qu'il est un peu tard pour réagir. Là. C'est payé. Hein?
Exact.
T'as-tu des trucs pour nous autres, Frédéric?
Oui, ben je pose une autre petite question. Est-ce qu'un prêt hypothécaire, c'est une bonne ou une mauvaise dette?
C'est une bonne question, ça.
Bonne question. Hein. Ça, je me suis amusé à la chipoter, comment je pourrais dire, à jongler avec. Puis, à quelque
J'aurais
part.
Tendance à dire que c'est une bonne dette, mais
ouais.
Encore là, ça doit dépendre de ce qu'on fait avec tout ça.
Exactement. J'ai un prof à l'Université Laval, il y a longtemps, j'ai fait des recherches sur Internet, puis j'ai pas réussi à retrouver son livre qu'il avait écrit il y a une trentaine d'années. J'avais été à la foire de l'épargne et placement à Québec, Éric Lessard, je peux le nommer. J'ai rien retrouvé sur Internet. J'espère qu'il est pas mort. Il était pas si vieux quand j'étais à l'école, donc j'ai rien retrouvé. Mais il avait écrit un livre sur ça, justement, qui faisait la comparaison entre quelqu'un qui était locataire et quelqu'un qui était propriétaire. Et lui, sa conclusion au bout de la ligne, c'est que c'est pas plus payant à être locataire que propriétaire. Ce n'est qu'un choix. La différence, c'est que le locataire paye rien, ben, paye son loyer, point final, c'est une dépense. Tandis qu'un propriétaire, ben, il paye les rénovations, le toit, il doit être changé, la peinture et tout ça, les changements de fenêtres, de portes, assurance, déneigement, et tout, les taxes scolaires, municipales et autres taxes de ce monde. Donc, il dit, au bout de la ligne, il dit, même si la maison prend de la valeur, il est arrivé à la conclusion que c'était pas plus payant pour un que pour l'autre. Et la question est toujours, même si on paye la maison, est-ce qu'elle nous ramène de l'argent? Et là, avec ce que je viens de dire, ben, on en sort toujours là, pour faire des réparations, des rénovations et tout ça.
Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, Frédéric, là, on est après la COVID. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que là, le prix des maisons a comme augmenté drastiquement. Peut-être oui. Que là, il y a des son livre est peut-être plus d'actualité.
Je ne sais pas. Ben, il y a 30 ans, donc, la COVID n'était même pas en vue. Ce que je dirais, je l'avais enlevé, je l'ai dans une petite vidéo que j'ai faite, j'en parle, ça me revient en mémoire, où est-ce qu'on devrait, un chiffre que j'avais vu, on devrait là, payer entre à peu près 3 fois notre revenu pour une maison. Donc, une famille, un couple qui gagne chacun 50 000, puis déjà là, c'est des bons revenus parce que la moyenne est plus basse que ça. Donc, 100 000, la maison ne devrait pas dépasser 300 000. Donc, avec la COVID, le prix a énormément augmenté. Donc, ça vient dire à quelque part que c'était peut-être pas le meilleur des mouvements, des transactions à faire, là, d'aller chercher une maison plus chère. Des fois, c'était comme une obligation et tout ça.
OK. Donc, mais là, comment... J'ai de la misère à saisir, Frédéric. Comment on fait, finalement, pour faire de l'argent avec nos dettes, là?
Là, on y arrive. J'ai quasiment envie de te dire 4,5 exemples pour s'enrichir avec ses dettes. Le premier, bon, on en parle un petit peu avec prêt hypothécaire et tout ça. Bien, le premier, c'est l'immobilier. Mais au lieu de le faire... notre propre maison, qui est notre toit à nous, personnel, ben c'est d'acheter un duplex, triplex et plus. Donc, l'emprunt hypothécaire va être payé par les locataires et les autres dépenses. Donc, si au bout de la ligne, le prêt nous coûte, je ne sais pas, moi, 1 000 par... ça n'a peut-être pas rapport comme montant, 1 000 par mois, et que les locataires nous payent 1 500. Ben le 500 $, si ça paye toutes mes taxes en moyenne par mois, mes assurances et tout ça, et qu'il m'en reste, ben c'est une bonne dette. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent...
Surtout si tu habites dans le duplex, dans le triplex ou dans le quadruplex.
Surtout si...
Si tu habites toi-même dans cet édifice-là,
aussi,
ton logement est payé.
Exactement, oui. Ça, c'est une belle réalité à faire.
Ça, c'est pas un peu comme le rêve américain?
Le rêve américain?
Oui, c'est pas un peu comme le rêve américain de penser ça?
Je n'ai jamais entendu ce principe-là, ce côté-là. Donc ça, c'est beau à parler en théorie, tout ça, c'est bien. Pour y avoir goûté quelques années en gestion immobilière, ben, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas pour tout le monde, incluant moi, que c'était pas... le chapeau ne me faisait pas. J'ai été quelques années à porter le chapeau. On parle de gestion administrative. Ça, là-dessus, je pense que ce n'était pas un problème pour moi. De faire des petites réparations, j'ai adoré ce côté-là. Où on paye pour. Donc, c'est notre temps qu'on fait et on apprend. Puis, Si on n'a pas le talent ou la capacité, les compétences, bien là, on doit payer. Donc, théoriquement, ça coûte plus cher. Puis des fois, le délai, si c'est quelque chose d'assez complexe à réparer, bien les gens de la construction ont des calendriers, fait que ça peut prendre du temps avant que ça soit réparé. Et le troisième point que je me suis mis, c'est la gestion des locataires. Donc, un qui ne veut pas payer tout ça. J'ai une amie là, à Montréal là, que j'avais parlé à un moment donné. Puis c'est sûr qu'elle joue beaucoup plus dans le commercial et tout. Puis c'était comme, bien, on suit les règles, puis sinon, c'est out. Là. Ben moi, j'avais peut-être un peu trop le cœur sensible là-dessus. Fait qu'il faisait qu'il y a des mois qui sautaient, puis le temps que ça rattrape, c'était très long. Là. Donc, ce petit côté-là m'a chagriné beaucoup, moi, comment a fait que ça m'a fait comme un peu... moins aimé le côté de l'immobilier que j'ai quitté. Là.
C'est là que tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui paye le premier du mois, par exemple. Là.
Exactement.
Hein? Okay. Fait qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage, mais à quelque part, c'est bien. Si toi, tu as compris que ce n'était pas pour toi, c'est OK. Il y a peut-être de nos auditeurs qui vont vivre des choses similaires à toi, puis il y en a peut-être d'autres qui vont connaître la plénitude et la paix avec tout ça, puis qu'ils vont être sur leur X, là.
Oui, oh oui, il y en a qui adorent ça, j'en connais là, qui adorent ça, puis qui font de l'argent avec ça, l'appréciation, qui s'en sert pour acheter un autre, faire un effet de levier, c'est magnifique, mais ça prend du temps aussi, là. Ça c'est une chose des fois que ça paraît pas, là. Même si on a des gens qui réparent et tout, il y a une gestion de temps qu'il faut avoir, là. Quand on a beaucoup d'autres obligations familiales avec les parents et les enfants, à un moment donné, on est déchiré à travers de tout ça. Là.
Quel autre exemple as-tu pour qu'on s'enrichisse avec nos dettes?
Si les gens ont de la facilité à trouver des placements, exemple, mettons que les gens ont de la facilité à générer des bons revenus à la bourse. On dit que les meilleurs génèrent à peu près le 25% annuellement. Donc, ce serait dans les meilleurs, ça. Donc, mettons qu'on serait capable de générer du 15%, entre guillemets, facilement, toujours entre guillemets, et qu'on peut emprunter à 10%, ben 15% moins 10, ben on est automatiquement gagnant. Donc là, on pourrait dire, j'emprunte un 10 000 $ puis je le place, puis à quelque part, avec ce que je fais en gain, bien, je peux réussir à payer mon emprunt.
Donc là, tu es en train de nous montrer comment faire de l'argent avec l'argent des autres.
Oui.
J'aime oui, ça.
Oui, bien, la bourse, je pense que tu connais un peu mon amour, ma passion pour ce domaine.
Oui, tu es même en train de me la transmettre, puis je pense peut-être que tu es en train de la transmettre à certains auditeurs. Là. Bref, ouais. Moi, je suis quand même prudente, là, mais c'est ça, soit on en reparlera une autre fois de ça. J'aime mieux qu'on qu'on donne des exemples concrets à nos auditeurs.
Sur la des...
eux choisiront la manière qu'ils peuvent faire pour s'enrichir. Donc là, on en a donné deux. Il en reste deux et demi et la chronique tire bientôt à sa fin, Frédéric. Donc, la troisième solution.
La troisième, elle est contre-intuitive. Donc, souvent, là, quand j'ai donné mon premier cours de finances personnelles il y a longtemps, et j'étais en appartement là, chez mes parents, à côté de chez mes parents, je posais la question, tu empruntes 1000 $ à 12 % et tu le places de l'autre côté à du 10 %. Est-ce que c'est rentable?
Et là, les même, gens, j'aurais envie de dire non, là.
Oui, la majorité des gens, puis c'est tout à fait normal quand ils n'ont pas une notion paranoïaque, qui ne vont pas se questionner pourquoi ils posent cette question-là, puis qui ne cherchent pas à comprendre le pourquoi de la question, ben oui, effectivement, 12 moins 10, je perds 2 %. Mais si je te dis que le 1000 $ je le prends de l'institution A, je le place dans un placement dans une institution B, puis ça peut être même à A aussi, à du 10 %, au bout d'un an, ça va me donner 100 $ Et si je rembourse ce prêt-là, 88,85 par mois, ça va me coûter 1066,20. Donc, je fais 100 $ de profit, de rendement, et ça me coûte 66,20 en intérêt sur mon prêt. Ce qui fait que je viens de faire 37,80 $.
Pour 37$, Frédéric, tu trouves pas que c'est un peu compliqué?
Ben, c'est pour donner l'exemple, quand même, c'est quand même intéressant. Là, c'est un 37% là, sur le 100, là, mais ça, c'est pas important. Si on fait ça à 10 000, ben, c'est un 370. Si on fait ça à 100 000, c'est le
seul. Ouais, mais là, c'est pas tout le monde qui peut aller emprunter ces gros montants-là pour faire des placements. Tu sais, s'ils sont déjà la tête prise dans l'eau, là, ou par-dessus les oreilles, ou.
Effectivement, ben c'est un bémol que je parle un petit peu plus bas, là, que, à mon avis, là, je vais en parler un peu plus bas, là, qu'est-ce que j'en vois comme signal. Le quatrième point, c'est le fameux d'essayer d'aller chercher des petits rabais. Où est-ce qu'il y a des entreprises? Entreprises, ils sont souvent, à un moment donné, entre deux feux. Hein, ils aiment payer le plus loin possible un de leurs fournisseurs et ils aiment encaisser le plus rapidement l'argent de leurs clients. Donc, oui. Des fois, pour forcer la main à des clients pour qu'ils payent plus rapidement, donc au lieu de dire, ben, tu des fois, on parle de compte là, d'entreprise, de me payer net dans 30 jours. Là, le fameux terme, là, ça ressemble quasiment à une affaire de la guerre des étoiles, là, 2, 10, N, 30. Là, donc, je te donne un 2% de rabais si tu me payes en dedans de 10 jours. Donc, l'entreprise est prête à dire, ben, paye-moi moins que tu me dois dans les 10 premiers jours pour que j'encaisse rapidement, moi, l'argent. Et toi, ça te fera moins d'argent. Donc, si on dit ça, 2% par mois à 12 mois, ben c'est quand même un 24% qu'on fait avec une consommation qu'on ferait normalement de toute façon. Et le N30, c'est net 30, ça veut dire ben, tu me payes le montant exact de la facture de base dans les 30 jours, sinon ben là, il y a des intérêts qui sont calculés à partir du mois suivant.
Ça, est-ce que ça s'applique uniquement, ce quatrième exemple-là, à ceux qui sont dans les affaires ou ça peut s'appliquer à monsieur, madame, tout le monde?
Je pense pas que ça soit... Ben, de ce que je pense actuellement, c'est que monsieur, madame, tout le monde, actuellement, paye beaucoup à carte de crédit. Donc, il n'y a plus de ces genres de conditions de paiement-là. Ce que je sais qui existe fort possiblement encore des genres des quincailleries. Quand j'étais plus jeune, là, mon père faisait beaucoup affaire là, pour des réparations. On allait acheter des choses, il nous donnait une facture, puis on partait, on ne payait pas tout de suite. Puis à la fin du mois, on recevait l'état de compte. Sur ces états de compte-là, il y avait ces genres de modes, des conditions de paiement. Donc actuellement, oui. Il existe certainement encore là, des entreprises qui peuvent demander ça parce qu'ils veulent justement raccourcir le délai là, de paiement, là, qui fait que pour la gestion de trésorerie pour une entreprise, des fois, c'est important. Là.
OK. Et rapidement, Frédéric, tu nous as dit 1.5 exemples. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Je parle de Madame Coupon. Je ne sais pas si c'est une histoire que j'entends.
Faire du couponing?
Oui, du couponing. J'entendais ça souvent dans le marketing de réseau. Il y en a un là, qui expliquait à un moment donné, qui argumentait et tout, puis qui finissait par dire que il rencontrait le Madame Coupon qui avait une des meilleures là, qui, dans ce temps-là, faisait comme 1 000 $ de réduction, là, de rabais dans l'année. C'est sûr que la moyenne, je pense, de mémoire, il disait que c'est 10 000 $ là, par semaine. Donc, c'est quand même énorme. Là. Fait que là, moi, quelque part, c'est toujours comme « wow, wow, wow ». Mais au bout de tout ça, si on parle de 10 $ par semaine, on parle d'un 500 $, un petit peu plus que 500 $ par année. Ben si au bout de... Puis là, quand il racontait l'histoire, la madame, elle voulait comme payer un voyage en Floride avec ses enfants qui coûtait 10 000 $ il y a bien des années. Fait qu'il dit, ben 1 000 $, tu as des rabais là, de 1 000 $, fait qu'au bout de 10 ans, tu dois avoir cet argent-là. Ben, l'argent n'était plus là. Tu en parlais un petit peu tantôt, là, au-dessus de la tête, là, au-dessus des oreilles, ben, c'est que souvent, quand on a des rabais, ben, le cerveau dit « Ah, OK, félicitations, tu as quand même eu un gros 5 $ de rabais à l'épicerie cette semaine. Ben, c'est drôle, la petite tablette de chocolat, vous nous tentez, le cornet de crème glacée. » On va comme vouloir se féliciter. C'est comme si le côté récompense, on doit le justifier.
Oui, puis souvent, on le fait avec la nourriture, donc on dépense, alors qu'on pourrait le faire en investissant, c'est ce que tu veux nous amener.
Exactement.
Hein?
C'est moi qui ne suis pas du tout, c'est les genres de rabelais et tout. J'ai pas plus d'argent à mon compte de banque que quelqu'un qui y suit parce qu'ils vont finir par dépenser pareil plus de choses pour arriver qu'ils n'ont pas plus d'argent à leur compte de banque. Ça doit être très, très rare, puis ce serait intéressant s'il y en a qui veulent le commenter, s'il y en a qui le font, qui disent vraiment que quand ils économisent 5 $, ils le mettent dans un compte à part pour un projet X.
Ça pourrait être pour faire un voyage, par exemple. Très intéressant tout ça, Frédéric. Ta conclusion?
Oui, ben, ce que je voulais dire, c'est avant de penser à utiliser les dettes comme stratégie d'enrichissement, ben, c'est, il est vraiment nécessaire, quant à moi, de payer les mauvaises dettes. Je donne un exemple ici un peu plus bas, là. Une hypothèque de 100 000 $ je regardais un peu les taux, là, 5,69 %. Donc, il resterait là, 13 ans à payer, 900 piastres par mois. Si tu le payes en quelques années de moins, là, ça peut t'épargner. Là, je vais juste lire le total d'intérêts à payer. Donc, il resterait un 42 000 d'intérêts à payer si tu suis une méthode pour éliminer tes dettes plus vite. Donc, si tu peux, si tu gagnes 10 ans, tu gagnerais 11 000 $ Donc, tu peux t'enrichir en empruntant et placé, mais tu peux t'enrichir. On connaît bien le fameux dicton qui n'a pas de dette est riche. Si tu n'as pas de dette, tu es riche. Ben, tu peux t'enrichir à diminuer tes dettes aussi le plus vite possible. C'est ce que je pense que tu as une copie toi-même là, de mon livre. Là, j'ai comme les 6 étapes à l'intérieur et j'ai même développé là, dernièrement là, en capsule vidéo, là, les 6 vidéos par rapport à cette stratégie-là.
Donc, pour te rejoindre, Frédéric, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur les différentes méthodes, ça serait quoi le meilleur moyen?
Par mon site Internet, il y a possibilité, là, s'ils veulent un appel découverte, le lien est directement dessus. Mon courriel est dans les contacts aussi.
On a des commentaires, d'ailleurs, sur les lives Facebook. Ça dit tellement intéressant. Il y a même des gens qui taguent d'autres individus pour leur faire connaître le tout. N'hésitez pas, ce sont toutes des bonnes techniques qui permettent de faire parler de nous, qui nous permettent de vous aider de plus en plus. Frédéric, merci de prendre soin de ta santé et on se retrouve le mois prochain.
Merci pour l'opportunité, Manon.
À bientôt. Bye.
Bye-bye.
Nous, après la pause.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.